Avec le soutien du ministère de la Culture, Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs 2021. Tête chercheuse, voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle.
Je suis d'origine québécoise et je suis chercheur en écologie benthique. Je travaille sur les grands fonds marins depuis une vingtaine d'années au Centre Ifremer de Bretagne.
José Sarrazin, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement votre domaine de recherche?
Alors, je travaille en biologie marine et moi, je m'intéresse tout particulièrement aux communautés animales qui vivent dans les grands fonds marins. Et pas seulement dans les grands fonds marins, mais dans un écosystème assez spécifique que sont les sources hydrothermales. Alors les sources hydrothermales, c'est des espèces de geysers hein, qui vont jaillir au fond de l'océan, où il va y avoir des fluides très chauds et toxiques, a priori toxiques, mais où on va retrouver étonnamment des oasis de vie. Et c'est les animaux qui vivent dans ces oasis de vie, en fait, qui font l'objet de mes recherches.
Et donc le but, c'est d'essayer de comprendre comment ils vivent ou quels sont ces organismes
Donc du coup, on s'intéresse à ce qu'on appelle la biodiversité. Donc on essaye de savoir quelles espèces vont vivre dans ce milieu-là. On va essayer de s'intéresser aussi à leur habitat, dans quel type d'environnement, au niveau de la température, des concentrations d'éléments chimiques, ces animaux vont vivre. Et puis aussi comment leur écosystème va varier au cours du temps. Donc comment ça évolue au cours du temps en fonction des variations de leur milieu.
Elle est belle la science quand elle s'échappe des laboratoires.
Tête chercheuse, voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle.
Et comment vous vous êtes retrouvé à vous intéresser à ces sujets-là?
Les parcours sont jamais linéaires. Le mien, il a commencé déjà par l'écologie terrestre. À l'époque, j'étais au Québec, donc j'ai fait l'équivalent d'une licence en écologie terrestre. Et puis, à la dernière année de ma licence, j'avais quand même envie de travailler sur le milieu marin. Mais à l'époque, au Québec, il n'y avait pas de formation de ce genre-là. Donc, je suis venue faire ma dernière année de licence en France, ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et puis de me dire que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Ensuite, je suis repartie au Québec pour faire une maîtrise en océanographie où là, j'ai vraiment commencé à étudier le milieu marin et je me suis vraiment rendu compte que j'avais un fort intérêt pour ça. Et ça a été le déclenchement, ça a été vraiment un cours qui s'appelle océanographie expérimentale où là, j'ai embarqué à bord d'un bateau de recherche et j'ai appris l'échantillonnage, le travail d'équipe et tout ça. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et quand j'ai voulu chercher ma thèse, du coup j'ai essayé de m'orienter vers ça, quoi. Une recherche qui s'orientait plutôt, qui travaillait en haute mer. Et j'ai commencé à ce moment-là à travailler sur les écosystèmes des grandes profondeurs qui étaient alors assez méconnus parce que les sources hydrothermales ont été découvertes en 1977. Donc on avait à peine 20 ans de recherche sur ces milieux-là. Donc c'est vraiment une recherche d'explorateur et c'est vraiment hyper excitant parce qu'à chaque campagne, en fait, on trouve des nouvelles choses, des nouvelles espèces et on est vraiment les premiers souvent à explorer certains milieux.
Et est-ce que vous pouvez expliquer justement comment se passent vos recherches? Vous venez de parler du mot de campagne, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller sur le terrain.
Exactement, et c'est ça qui me plaît, c'est ce fameux terrain. En fait, pour aller dans les grands fonds marins, donc les sources hydrothermales, il faut savoir que moi je travaille sur les sources hydrothermales profondes, donc à plus de 1000 mètres de profondeur, donc pour ce faire, il faut y aller, évidemment. Les sources hydrothermales se retrouvent au niveau des dorsales océaniques, donc c'est souvent cette espèce de chaîne de montagnes qui sillonne le centre des océans et où se forme la nouvelle croûte terrestre. Et donc, pour y aller, donc il faut embarquer sur un navire océanographique. Et puis après, pour aller au niveau des sources hydrothermales, il faut utiliser un submersible, donc un sous-marin qui soit habité ou téléguidé. On travaille avec les deux types d'engins et qui nous permettent de descendre à grande profondeur pour aller échantillonner justement la faune et caractériser le milieu dans lequel cette faune vit.
11 septembre. Ce matin, je rencontre Xavier Mou, un acousticien venu aux ateliers. Et il m'apprend que les poissons communiquent par son. Alors, je l'ignorais complètement. Je ne suis pas loin de penser que vous aussi. Bon, Le chant des baleines, on connaît. On a même récemment reconnu un langage aux dauphins. Mais que les sardines papotent, ça...
Je sais que ce qui vous tient à cœur aussi dans votre métier, c'est la vulgarisation. C'est quelque chose qui est très important et vous le faites de plusieurs manières, dont une manière qui ressort d'une forme absolument sublime, puisque j'ai eu l'occasion de voir la pièce. On parle de Donvor, donc c'est du théâtre sonore. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette pièce ?
Oui, Donvor, c'est une aventure au long cours qu'on a avec un collègue à moi qui s'appelle Pierre-Marie Saradin, qu'on a menée. C'est une aventure qui a débuté en 2016. Où on voulait depuis longtemps toucher un public qui était différent du public qui va venir à la fête de la science, qui va venir écouter une conférence de vulgarisation scientifique. Et le théâtre est apparu comme un moyen original, en tout cas, de pouvoir parler de ces écosystèmes profonds aux gens, à tout le monde, quoi, en fait. Et donc, on a contacté Théâtre Piba, qui est une compagnie de théâtre locale, brestoise. Et on a commencé, donc, au départ du projet, on s'est dit, on ne peut pas être que des passeurs de science. C'est important que ces gens du théâtre découvrent notre milieu de recherche. Et donc, on a souhaité les embarquer à bord d'un bateau. Donc, c'était pas une chose facile. Donc, on a négocié, on a fini par pouvoir embarquer pendant un transit de 7 jours du bateau du Pourquoi Pas, qui est un navire océanographique. On a pu les embarquer sur un transit. On a embarqué le metteur en scène, un ingénieur son, la scénographe, une comédienne. Et on a pu leur faire découvrir c'était quoi la vie à bord d'un navire océanographique. Donc le début de l'aventure de Donvor, c'est ça qu'on entend. C'est cette aventure océanographique avec les sons d'ambiance du bateau et vraiment comment se passe cette science. Et on a ensuite... Ça, c'était vraiment un transit où il n'y avait pas d'opération de submersible, parce que ces campagnes-là sont assez chargées, la demande est très importante, mais on a pu, un peu plus tard, en juillet 2017, embarquer l'auteur de la pièce, qui s'appelle David Val, avec nous pendant 3 semaines d'une vraie expédition scientifique où là, il a vraiment participé aux activités de recherche à bord. Il a pu être en contact avec tous les chercheurs, poser des questions, vraiment s'immerger les deux pieds dans la flotte, on va dire. Et puis, pouvoir justement, par son journal de bord, parler de la recherche qui se fait à bord et des différents axes de recherche qui intéressent les chercheurs d'un bateau aussi grand que le Pourquoi Pas.
Alors le résultat est absolument impressionnant, c'est une pièce que je conseille à tout le monde, en plus pour les amateurs de radio, il y a quand même un gros travail sur le son, y compris le son binaural, etc. Ouais. Mais comment ça s'est passé justement à bord avec eux qui n'avaient peut-être pas l'habitude déjà de monter sur un bateau, encore moins d'assister à des campagnes, à des transits
Ça a été, je pense, une aventure inoubliable de part et d'autre. C'est sûr que lors du transit où là, il y avait vraiment toute la troupe, ils ont eu l'occasion d'expérimenter le mal de mer, de se familiariser avec le bateau. C'est des bateaux qui sont énormes. Le Pourquoi Pas fait 100 mètres de long, il a 8 étages, donc c'est vraiment... énorme. Et on a pu, du coup, à bord, on a beaucoup échangé, on leur a expliqué ce qu'on faisait, on a fait même, nous, du jeu d'acteurs à bord du bateau, donc c'est vraiment un échange de part et d'autre. Et puis après, au niveau de la campagne, comme je le disais, c'était David Val, et puis après, on a pu embarquer aussi le metteur en scène et l'ingé son, qui sont venus au cœur de nos recherches, et on les a mis dans le bain comme s'ils étaient des étudiants, quoi.
Et qu'est-ce que ça apporte, j'ai envie de dire, dans un premier temps, pour vous, de travailler avec eux et de justement d'aborder cet aspect de la vulgarisation ou de, comme on dit, de la recherche culturelle, de la science participative?
C'est comme je le disais tout à l'heure, nous, la seule commande qu'on avait, en fait, on ne savait pas où on allait. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. C'était une expérience. On ne savait pas si ça allait aboutir à quelque chose ou pas. C'était vraiment expérimental. Et notre objectif, c'était vraiment qu'il en résulte une création qui parlerait des écosystèmes marins profonds de façon poétique. Mais c'était le seul souhait qu'on avait. Ça aurait pu dévier dans n'importe quel sens, ça aurait pu prendre n'importe quelle forme. Mais finalement, c'est vraiment leur expérience, donc le journal de bord de David Valle, qui est devenu le texte de cette pièce de théâtre et sur lequel, comme vous l'avez mentionné, s'est greffé tout cet aspect d'ambiance à bord et qui, je pense, fait la force de la pièce parce que même les gens qui ont déjà embarqué, qui écoutent le son, se retrouvent automatiquement plongés à bord du Pourquoi pas et avec le sous-marin Victor.
Autre jiarouat, on met de vargil banorms et réputar et tim.
Pour toucher le grand public, je le disais tout à l'heure, la vulgarisation, ça fait partie des valeurs que vous portez et des choses qui vous intéressent dans votre travail. Est-ce que vous avez imaginé d'autres formes, puisque là, bon, on a parlé de cette pièce de théâtre, même si à la base, vous ne saviez pas comment ça allait partir et ce que ça allait donner. mais j'imagine que c'est une question qu'on se pose souvent, en fait, quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à la vulgarisation, c'est comment toucher le grand public ?
Oui, moi, en fait, ça a fait partie de mon parcours depuis ma thèse. En fait, j'ai commencé par écrire des textes de vulgarisation. Après, j'ai fait de la vulgarisation plus classique, on va dire, avec des conférences, avec des jeux vidéo, avec et avec cette pièce d'Onvor. On s'intéresse, on a développé un jeu en ligne qui est un jeu de science participative pour nous aider, nous chercheurs, à dépouiller en fait les images qu'on va recueillir des grands fonds marins, parce qu'en fait avec une collègue qui s'appelle Marjolaine Matabos, on a installé depuis 10 ans ce qu'on appelle des observatoires fond de mer. C'est des observatoires qu'on met au fond de l'eau qui nous permettent de suivre en continu la vie des différentes espèces qui vivent autour des sources hydrothermales. Mais vous imaginez qu'en 10 ans, et en plus on est impliqué dans 2 observatoires, un dans le Pacifique, un dans l'Atlantique, en 10 ans, on a recueilli des milliers d'heures de vidéos. Donc à toutes les deux, c'est impossible de dépouiller toute cette donnée d'image. Et donc on a imaginé ce jeu Deep Sea Spy. Vous pouvez aller le trouver en ligne, hein, c'est www.deepseaspy.com, ou si vous cherchez Espion des grands fonds, Ifremer, vous allez aussi tomber dessus. Et ce jeu, en fait, ça vous apprend déjà à reconnaître les espèces des sources hydrothermales et à analyser différentes images pour répertorier quelles sont les espèces, où est-ce qu'elles se situent dans l'image. Et nous, après, ça alimente une base de données qui nous aide finalement, après, dans nos recherches, on extrait toute cette donnée, on l'analyse et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que si on était que deux à analyser les images.
Et je me demandais, comment est venue l'idée ? Est-ce que c'est parti du constat que vous aviez trop d'images à analyser à 2 personnes et donc qu'il fallait inclure les gens finalement pour vous aider, ou est-ce que c'est vraiment toujours parti de cette idée de vulgarisation, de participation de la population et de faire découvrir le milieu de la recherche scientifique, etc.
Bah, je dirais que c'est un peu des deux. C'est vraiment on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas toute seule, et puis en plus on a les jeux de sciences participatives, la NASA était dans les premiers à lancer ce genre d'initiative et c'est vraiment très efficace. Donc évidemment, le fait de faire jouer les gens aussi, ça leur permet de découvrir l'écosystème et puis ça nous fait avancer petit à petit dans nos recherches.
Tête chercheuse.
Est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Parce que là, on a eu quand même pas mal de pistes dans tout ce que vous nous dites. La vulgarisation, entre guillemets, classique via des conférences ou des textes de vulgarisation, du théâtre, du jeu vidéo. Est-ce que vous avez encore...
Oui, on a plein d'idées.
Est-ce qu'on peut les avoir alors ?
Ben là, avec Marjolaine, toujours, on travaille. C'est un projet qui est amorcé, mais qui n'est pas encore réellement concret. Mais on veut travailler sur une BD sur les écosystèmes hydrothermaux et les ressources minérales qui y sont associées, un peu pour sensibiliser aussi le public et aussi les plus jeunes aux ressources qu'on retrouve dans les grands fonds marins et puis à la potentielle idée qu'on a d'aller exploiter ces ressources dans des environnements qu'on connaît à peine. Voilà, donc vous devriez voir naître une BD d'ici quelques années, on va dire.
On se tiendra au courant. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'on parle effectivement de recherche, pour le coup, culturelle, avec le théâtre, de sciences participatives, de vulgarisation, d'intéressement, finalement, à la recherche scientifique. Mais, en fait, grâce aussi à votre champ de recherche, c'est beaucoup axé sur l'environnement, de manière générale, et quand même une sensibilisation à la protection de l'environnement.
Bah, tout à fait. Eh oui, parce que, comme je le disais, ce sont des milieux qu'on connaît à peine. Hein. Les fonds océaniques, ça couvre à peu près 66% de la surface de notre planète. Et on dit toujours qu'on connaît moins nos propres fonds océaniques que la surface de la Lune ou la surface de Mars. On a exploré à peine 1% de ces fonds océaniques, donc il y a énormément d'espèces à découvrir. Et paradoxalement, c'est des écosystèmes qui sont de plus en plus visés par l'exploitation de leurs ressources. Donc évidemment, c'est la question de la protection de l'environnement est extrêmement, on va dire, cruciale et urgente.
Qu'est-ce que ça vous apporte, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue scientifique, de travailler de ces manières-là?
Je pense que ça donne du sens à ce qu'on fait. Moi, en tout cas, ça me permet de m'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus concret que de faire que de la science fondamentale. Ça m'apporte beaucoup parce qu'avoir des regards différents sur ce qu'on fait, ça déplace en fait, ça nous déplace personnellement par rapport au regard qu'on porte aux recherches qu'on fait. Je pense que ça. Ça permet aussi tous les jours de se dire bah, c'est extraordinaire, même si on en est consciente, c'est extraordinaire cette recherche qu'on peut faire, on a une chance inouïe et puis ça montre aussi l'importance que ça peut avoir dans la société et comment aussi, mine de rien, les fonds océaniques, c'est très méconnu. Moi, je suis toujours épatée des questions qu'on peut avoir suite aux représentations du spectacle, de gens qui découvrent que la vie peut être foisonnante dans les fonds marins, qu'il y a des ressources, qu'il y a des velléités d'exploitation. J'ai l'impression que souvent, c'est une découverte, et alors que moi, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Donc voilà, ça donne vraiment du sens, moi, à mes recherches.
Oui, ça fait évoluer aussi votre manière de faire de la recherche, peut-être.
Oui, je pense, mais parce qu'il y a plein de questions qui se posent que finalement, on ne se les poserait peut-être pas. On dit toujours qu'il n'y a pas de questions idiotes. Et c'est vrai, parce que des fois, en conférence ou à l'issue des représentations, on nous pose des questions, puis on se dit, tiens, oui, c'est vrai, je n'avais pas vu que ça comme ça. Et finalement, ça nous, comme je disais tout à l'heure, ça nous déplace par rapport à notre propre être, quoi.
Et donc, on a parlé de théâtre, de jeux vidéoludiques, on va dire, d'une BD en création, et vous avez aussi participé à un atelier radio. C'est vraiment là toutes les formes de la vulgarisation avec un terme très, très, très générique, j'ai envie de dire.
Bah oui, je pense que justement toutes ces formes en fait vont toucher des publics différents, je pense. Et puis plus on va en parler, plus les gens vont être sensibilisés et on a besoin aussi que les gens se mobilisent parce qu'il n'y a pas seulement, on parle pas, il suffit pas juste de parler de protection de l'environnement, mais il faut aussi parler de comment nous, en tant que citoyens, on peut agir. Et évidemment, ça passe par une réduction de notre consommation parce que ces ressources minérales. Bah, c'est celles qu'on va retrouver dans nos téléphones portables, c'est celles qu'on va trouver dans nos ordinateurs, voilà. Et le premier point d'entrée, c'est un point d'entrée personnel, c'est-à-dire qu'en consommant moins individuellement, bah, du coup, on aura moins besoin de ces ressources et peut-être qu'on pourra éviter d'aller chercher des ressources à plus de 1000 mètres de profondeur.
Bercé par Cousteau puis son monde du silence, on était complètement passé à côté. L'océan. L'océan bruisse de mille sons, bien plus encore qu'à surface. tout s'y propage plus rapidement, puis en continu. D'où l'immense problème de la pollution sonore. On dit même que, perturbés par nos moteurs, les poissons n'arrivent plus à repérer les femelles fertiles. Ils s'accouplent plus pauvrement, ajoutant aux dégâts de la surpêche une des causes à leur affaiblissement numérique. En bon voisin, ce serait smart de baisser la musique, puis de chercher de nouveaux moyens de navigation, à défaut de repasser à voile.
Le but, c'est finalement de donner les clés de compréhension aux citoyens pour qu'ensuite, eux puissent agir.
Qu'ils prennent en main leur propre planète, finalement.
Merci beaucoup, José.
Merci de m'avoir accueilli chez vous.
Vous avez entendu des extraits de la pièce Donvor, une collaboration artistique entre Théâtre Piba et Ifremer, d'après l'œuvre de David Val et Gwenolé Potzer à la création sonore.
C'était Tête chercheuse, voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle, avec le soutien du ministère de la Culture et la Nuit européenne des chercheurs.